Professeur Éric Marié, bonjour.
Bonjour.
Professeur Éric Marié, vous êtes universitaire attaché pour la recherche à l'IETT, Université de Lyon 3. Vous êtes aussi responsable pédagogique des diplômes universitaires en ce qui concerne la médecine chinoise à la faculté de Montpellier, ainsi que directeur scientifique du certificat universitaire sur le savoir des médecines chinoises à l'Université de Louvain-la-Neuve en Belgique.
Oui, effectivement, je partage mon temps entre ces trois institutions.
Alors, professeur, je crois qu'il y a du nouveau, il y a donc cette création de diplôme universitaire. C'était un rêve ancien ?
Oui, tout à fait, parce que la médecine chinoise n'avait pour l'instant en France que des structures d'ordre de type privé ou associative qui permettaient sa transmission, son enseignement. Et je considère réellement comme un progrès le fait qu'une université, particulièrement qu'une faculté de médecine comme celle de Montpellier, qui, je le rappelle, est la plus ancienne faculté de médecine du monde en activité, donc ait décidé de s'ouvrir à un autre système médical qui peut certes paraître un peu exotique, mais qui est en de nombreux points complémentaire de notre système de santé.
Alors professeur, j'ai aussi entendu dire que ces diplômes n'étaient pas ouverts uniquement qu'aux médecins. Est-ce vrai ?
Oui, c'est tout à fait vrai. Il a été décidé que des personnes qui n'appartenaient pas forcément au corps médical pourraient suivre les cours et passer donc ce diplôme universitaire parce que, d'une part, la médecine chinoise ne concerne pas que des médecins. Nous avons dans la formation, par exemple, des techniques. Il y a un diplôme universitaire consacré au massage et au qigong. Donc qui peut concerner aussi bien des psychologues que des kinésithérapeutes, des paramédicaux. Et nous avons des parties également de l'enseignement qui peuvent être très intéressantes pour des chercheurs en sciences sociales, pour des professionnels qui ont besoin de communiquer avec le monde chinois et avec le monde de la médecine chinoise sans forcément vouloir en faire une activité thérapeutique. Et à ce titre, vous savez, une faculté de médecine, c'est à la fois une école professionnelle, donc qui forme des médecins, et c'est une de ses vocations, mais c'est aussi une université. Et puis dans le terme d'université, il y a cette notion d'ouverture dont la faculté de médecine de Montpellier a fait la démonstration.
Professeur Marié, quelle est la spécificité de cette école chinoise, de cette médecine chinoise ?
Alors, la médecine chinoise, c'est un système médical fort ancien, dont les origines remontent en tout cas à plus de 2000 ans, et qui a une double particularité. D'une part, c'est sans doute dans l'histoire des civilisations le système le plus ancien qui soit encore aujourd'hui en activité, tout en restant fidèle à ses conceptions fondamentales, ses conceptions originelles. Il existe sans doute des systèmes médicaux aussi anciens que la médecine chinoise, même peut-être plus anciens, pourquoi pas, mais qui a cette double particularité qu'elle ne partage avec aucun autre système médical. D'une part, d'être encore pratiqué aujourd'hui d'une façon conforme à la plupart de ses fondements philosophiques, théoriques, initiaux, et qui d'autre part, et c'est là vraiment une particularité tout à fait exceptionnelle, d'être pratiqué comme médecine d'État dans un pays qui a donc deux systèmes médicaux institutionnels. Alors, cette double particularité n'existe dans aucun autre système médical. Il y a sans doute des médecines qui devaient exister avant la médecine chinoise, bien entendu, mais aucune d'entre elles n'est encore aujourd'hui médecine d'État. Et puis, il existe également il y a eu dans l'histoire, des systèmes médicaux anciens qui ont été des médecines d'État, mais la Chine a vraiment cette particularité d'avoir deux médecines institutionnelles qui ont des bases philosophiques, épistémologiques, tout à fait différentes.
Professeur Marié, je crois que cette médecine chinoise a une spécificité culturelle, le dirons-nous, assez ancienne, et collabore en Chine, d'après ce que j'ai entendu dire, avec la médecine occidentale. C'est bien ça ?
Alors en fait, en Chine, si on observe la façon dont la médecine chinoise est enseignée, pratiquée, comment se font les recherches, on peut expliquer les choses de la façon suivante. Il y a deux systèmes médicaux qui ont un fonctionnement parallèle. Alors il y a bien entendu des spécificités pour chacun de ces deux systèmes, mais du point de vue de l'institution, lorsque par exemple un étudiant termine ses études secondaires et qu'il veut étudier la médecine, il doit choisir entre médecine chinoise ou médecine occidentale. Et ce qui est très intéressant, c'est que les parcours, les durées d'études, les niveaux de diplôme sont exactement identiques dans les deux branches. Et qu'il existe également une branche intermédiaire qui s'est créée il y a quelques années, qui est la combinaison de la médecine chinoise et de la médecine occidentale. Cette espèce de symétrie entre les deux systèmes montre l'importance qu'a la médecine chinoise et la place qu'elle occupe. Alors, ce système s'est exporté dans d'autres pays. Il n'existe pas qu'en Chine, par exemple, dans les pays du Pacifique occidental. La médecine chinoise est présente dans plus des deux tiers des pays, avec des politiques de santé publique, avec des systèmes d'assurance maladie qui la prennent en compte, et surtout avec des institutions qui délivrent des diplômes reconnus et permettant d'accéder à cette pratique d'une façon spécifique et autonome.
Donc là, a priori, vous nous annoncez pour la France quelque chose de reconnu et quelque chose qui sera enfin sorti de ce qu'on appelle le traditionnalisme un peu péjoratif.
Oh, ça n'est qu'une toute première étape qui s'est construite notamment grâce à la coopération entre Montpellier et Chengdu, Chengdu qui est une ville donc du Sichuan en Chine, et je pense que c'est un petit peu cette impulsion de la ville de Montpellier qui a permis la création de ces diplômes universitaires de médecine chinoise. Pour l'instant, il y en a 3 qui sont en place et d'autres qui sont en préparation. Mais évidemment, ça ne constitue qu'une toute première étape. Nous sommes loin d'avoir atteint le niveau de reconnaissance que peut avoir la médecine chinoise dans certains autres pays.
Et en termes d'efficacité, professeur, est-ce que c'est une médecine crédible? Peut-être est-ce une question un peu abusive, parce que tout le monde sait qu'une médecine qui dure 2000 ans, elle est bien évidemment crédible.
Oui, c'est une question de toute façon difficile. La question de l'efficacité d'un système médical, on pourrait tout à fait l'appliquer à la médecine occidentale, on pourrait l'appliquer à un grand nombre de choses, aux psychothérapies, aux cures thermales, et tout ce qu'on veut. Il est probable qu'un système médical qui a perduré pendant aussi longtemps, et surtout qui s'est exporté en dehors de son aire culturelle d'origine, on pourrait se dire encore qu'en Chine, bon, la médecine chinoise, c'est parce que les Chinois y sont attachés pour des tas de raisons idéologiques ou culturelles, mais lorsqu'elle s'exporte par exemple dans des pays comme l'Australie, qui n'ont pas d'acquaintance particulière avec la pensée chinoise, on peut supposer, et lorsque les instances, surtout de santé publique, décident de l'institutionnaliser, on peut supposer qu'elle a fait la démonstration de son efficacité. Oui, alors je dirais que à la lumière de mon expérience, j'ai observé donc l'efficacité de la médecine chinoise pendant plusieurs décennies, et donc je peux tout à fait en témoigner. Ça ne veut pas dire que la médecine chinoise doit supplanter la médecine occidentale, hein. Il n'est pas question de compétition entre deux systèmes médicaux. Ce qui me paraît tout simplement intéressant, c'est la chose suivante. Les Chinois ont adopté la médecine occidentale, ils disposent donc de 2 systèmes médicaux, et il me semble que l'ouverture en termes d'offres de soins est une qualité d'un système de santé. Il vaut mieux avoir l'embarras du choix que l'embarras tout court. Et que dans certains types de pathologies, pour lesquelles la médecine occidentale, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas performante, mais elle a ses zones d'efficacité, si vous voulez. Et il y a des zones qui sont moins remarquables, moins efficaces. Alors que la médecine chinoise, dans certains cas, peut être moins performante que la médecine occidentale, mais a également des domaines dans lesquels elle est tout à fait remarquable. Je pense notamment dans le cadre des pathologies chroniques, par exemple en rhumatologie, en neurologie, en dermatologie, pour lesquelles nous n'avons souvent en Europe que des solutions qui sont des solutions pour les phases aiguës, avec évidemment un soulagement des patients, mais qui ne permettent pas la résolution définitive de certaines maladies. Et de ce point de vue, la médecine chinoise est beaucoup plus performante. Elle permet aussi d'éviter tous les effets iatrogènes de certains médicaments qui, à long terme, je pense aux anti-inflammatoires, dans les pathologies rhumatismales, etc., qui, même lorsqu'ils sont performants, à un moment donné, ne peuvent plus être utilisés avec les mêmes doses par les patients parce qu'ils entraînent des effets indésirables.
Professeur, à l'heure actuelle, le gouvernement, le ministère de la Santé et beaucoup d'institutions mettent le doigt sur la prévention. Est-ce que la médecine chinoise ne serait pas une médecine préventive ?
Ah, la prévention occupe une part extrêmement importante dans la médecine chinoise. Je pense que nous avons beaucoup de choses à apprendre d'elle. Vous savez, il y a une expression dans les textes médicaux chinois qui disent que le petit médecin, donc avec un sens péjoratif, petit ouvrier, terme qui est employé, attend que les maladies apparaissent pour les soigner, tandis que le grand ouvrier est capable de prévenir leur apparition par une connaissance du terrain du patient, par une analyse de ses fragilités, etc. Et donc je pense que la médecine chinoise, depuis c'est son origine historique, s'est largement préoccupée de ces questions de prévention.
Médecine prédictive peut-être aussi ?
Oui, parce que la prévention, ça signifie aussi être capable de prévoir en quelque sorte la façon dont une pathologie peut évoluer, et donc il vient de prévenir par une connaissance des différentes hypothèses d'évolution péjorative, d'apporter en quelque sorte un traitement qui attend de la maladie au lieu de se laisser surprendre par elle.
Professeur, comment peut-on vous contacter si quelqu'un veut donc suivre votre diplôme universitaire ?
Écoute, il y a un numéro national où il est assez facile de laisser un message ou d'avoir des renseignements sur cette question. C'est le 05 49 32 88 50. Et donc, à ce numéro, il est possible d'obtenir des informations sur l'enseignement, les formations dans le domaine de la médecine chinoise, donc ses diplômes universitaires ou certificats universitaires pour Louvain, et éventuellement les questions concernant la recherche, etc.
Professeur Mariette, je vous remercie. Bon, je rappelle que vous vous occupez donc de la pédagogie des diplômes universitaires de la faculté de Montpellier en ce qui concerne les médecines chinoises. Merci, professeur.
Merci beaucoup.